au 01 45 24 7000 avec d'abord Philippe qui nous appelle de la région parisienne. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
En fait, bonjour monsieur Hamon.
Bonjour Philippe.
Je me suis permis de téléphoner parce qu'en fait, j'ai voté à gauche parce que je voulais effectivement une politique de droite, ce qu'on n'a jamais eu en réalité avec les gens de droite en 2012. Et je suis un petit peu choqué de vous avoir vu ne rester que 5 mois en tant que ministre de l'Éducation alors que le budget était en croissance. Et vous avez préféré partir. Je pense que vous êtes sur une position de dogme et vous avez, avec les frondeurs, empêché un fonctionnement correct de cette législature.
Donc si j'ai bien compris, vous avez voté à gauche pour avoir une politique de droite et me reprocher d'être parti parce qu'il n'y avait pas de politique de gauche. C'est ce que j'ai bien compris. Bon, alors j'assume avoir quitté le gouvernement en désaccord avec sa politique. Et je pense que c'était, et là aussi, je l'assume, un divorce à l'amiable. Mais auparavant, j'avais été ministre de la consommation et de l'économie sociale. Et ces deux lois qui, à mes yeux aujourd'hui, protègent à la fois les consommateurs et permettent le développement de ce modèle entrepreneurial auquel je crois, dont je pense qu'il est à bien des égards l'économie de l'avenir, c'est-à-dire l'économie sociale et solidaire, une économie qui se préoccupe de la création de richesses, mais aussi de l'impact de cette création de richesses sur l'environnement et aussi sur les salariés. Et donc, il y a des choix politiques qu'il faut assumer avec constance et cohérence. Moi, je n'ai pas changé entre le moment où j'étais au gouvernement et le moment où je l'ai quitté.
Voilà. Et puis le départ du gouvernement, ce n'était pas réellement un choix de votre part.
C'était un divorce à l'amiable. C'était une situation où on a constaté que nous n'étions plus d'accord sur le fond.
Enfin, ça a été contraint et subi. Vous ne l'aviez pas programmé ou préparé. C'est
pas né programmé,
de
mais,
l'écart
mais...
de langage d'Arnaud Montebourg à la fête de Frangy.
Faut reconnaître que nous savions exactement ce que nous disions sur le fond. Et sur le fond, nous étions en désaccord effectivement avec le choix de politique économique qui préparait la loi Macron derrière, la loi travail, c'est-à-dire des choix qui confirmaient la réduction de la dépense publique, qui se refusaient à faire des investissements qui nous paraissaient indispensables dans la transition écologique. C'est aussi pour ça que nous sommes partis. Je suis parti.
Beaucoup de questions qui tournent autour justement de l'union possible ou impossible de la gauche, des gauches. Peut-on, pourra-t-on concilier Montebourg, Hamon, Mélenchon, Macron et Valls sans une seule gauche? Demande par exemple Idiata sur l'appli France Inter. Impossible. Votre réponse?
L'idéal eût été une primaire de toute la gauche. Il y a encore un appel qui... De personnalités éminentes, d'intellectuels que moi je respecte pour la plupart, qui appellent à cette primaire de toute la gauche. Elle est effectivement la solution qui paraît comme la plus raisonnable, c'est-à-dire le moment où on fait d'abord respirer la démocratie, où on tranche des options, et où on se rassemble en choisissant un candidat. Et incontestablement, pour ce qui est de la responsabilité et de Jean-Luc Mélenchon et d'Emmanuel Macron, qui consiste à dire nous refusons le principe de la primaire, quand on n'a que 35% d'intention de vote à gauche, et qu'on devra partager ces 35% entre 3, 4, 5 candidats, on est à peu près certain qu'aucun d'entre eux ne sera au second tour de l'élection présidentielle. Et j'y rajoute une petite note personnelle. Je suis assez frappé de voir à quel point finalement, qu'il s'agisse d'Emmanuel Macron ou Jean-Luc Mélenchon, on croit encore, ou en tout cas chacun d'entre eux croit qu'il est l'homme providentiel. Et cela me frappe parce que d'abord on est servi par l'expérience pour constater qu'aucun candidat providentiel n'a été un président providentiel pour la France, que je trouve que c'est d'une immaturité politique et démocratique que de confier le destin de la nation en une personne qui concentrerait en lui le génie tout entier de la nation. Et voilà, j'y vois là, moi, la marque d'une forme d'immaturité politique. Et je dis à nos compatriotes, notamment à nos compatriotes de gauche, que la sincérité d'une démarche à l'élection présidentielle ne se mesure pas aux sanglots dans la voix que l'on a quand on évoque la République. Elle se mesure au contre-pouvoir que chacun de ces candidats propose de mettre sur la table pour s'assurer que, entre deux élections, les citoyens peuvent reprendre la main. Et c'est le sens de ma proposition d'un 49-3 citoyen, c'est-à-dire la possibilité pour 1% des électeurs inscrits sur les listes électorales, à peu près 450 000 personnes, électeurs, de pouvoir exiger que quand un texte est voté à l'Assemblée nationale, il puisse être validé par référendum dès lors que l'on juge que cette question-là est une question importante.
Référendum révocatoire, c'est aussi ce que propose Jean-Luc Mélenchon.
J'exige que ces questions-là soient posées sur la table. Et je crois que dans les formes de délibération que nous devons aussi initier, il faut s'inspirer de ce qui se fait dans d'autres démocraties. La démocratie scandinave, elle permet d'associer les citoyens à l'élaboration des lois, à fabriquer des articles, à les amender, bref, à organiser la délibération l'imagination collective, de telle manière qu'on puisse avoir bien des lois d'autant plus légitimes qu'elles ont associé les citoyens à leur rédaction.
Alors, remarque d'un auditeur, Joël, qui déplore les effets à la fois de la primaire à gauche et puis de cette querelle, de cette division, de cet éparpillement de candidatures. Je suis à gauche, dit Joël, pourquoi passe-t-il plus de temps à critiquer ses copains que les Républicains à droite? C'est aussi un effet du débat en cours.
Et le débat en cours, il nous amène à défendre des propositions. Moi, j'essaye d'en défendre. Je les ai mises sur la table là depuis ce matin et je le fais avec beaucoup de constance, je crois, depuis maintenant plus de 2 mois que je suis candidat. Il m'a pas échappé que la droite que nous avons en face est une droite totale. Conservatrice sur les questions sociales, libérale sur les questions économiques et que je trouve très inquiétante dans la forme d'esprit revanchard qui est celui qu'incarne François Fillon. Revanchard à l'écart de la fonction publique, d'ailleurs au passage, on dénonce des fonctionnaires, mais les fonctionnaires ils ont un métier. Ils sont pas que fonctionnaires. Le matin, quand ils se lèvent, ils font pas un métier de fonctionnaire. Ils sont jardiniers, professeurs, infirmiers ou infirmières. Bref, on les regarde aujourd'hui à travers le fait qu'ils appartiennent à la fonction publique et on leur dénie finalement une compétence, la qualité qui est la leur, de rendre service à la population. Et c'est ça qui me choque dans cet esprit revanchard. Parce que c'est un esprit revanchard qui aussi se concentre sur notre modèle social, sur le fait qu'on aurait trop de politiques de solidarité, qu'on aurait trop de transferts sociaux et donc trop d'impôts. Et j'y vois, pardon de le dire comme ça, une forme de réflexe d'une vieille bourgeoisie française qui veut prendre sa revanche avec l'État social. Oui, cela m'inquiète, mais face à cette droite totale, je prétends aujourd'hui que la solution n'est pas un candidat qui soit un candidat, finalement, d'une gauche qui soit une gauche difficile à reconnaître. Pourquoi? Et ce sera d'un dernier mot. Vous ne trouverez pas
c'est quoi, une
dans
gauche
le
pro... difficile à reconnaître.
Difficile à reconnaître parce qu'elle ferait des emprunts réguliers à droite. Mais je vais justement l'illustrer. Vous ne trouverez pas une mesure dans le programme de François Fillon qui soit prise dans le camp d'en face. Vous voyez pas en quoi aujourd'hui il s'inspire en quoi que ce soit d'un programme de gauche. Par contre, vous trouverez sur la question du contrat de travail, sur la question du licenciement, bon nombre d'emprunts dont la gauche dite social-libérale au programme de droite.
Mais vous parlez de quoi? D'Emmanuel Macron.
D'Emmanuel Macron, oui. Emmanuel Valls,
c'est Emmanuel Macron
travail.
Pense que le clivage gauche-droite est dépassé et que ce sont des progressistes qui s'opposent à des conservateurs.
Oui, trop facile. Trop facile. Beaucoup trop facile. Parce que aujourd'hui, les conflits tels qu'ils existent dans la société, ils rendent des salariés, des travailleurs de plus en plus vulnérables. Mmh. Aujourd'hui, la réalité des lois que lui a voulu et contre laquelle je me suis opposé, la sienne, comme la loi travail, elle fragilise des gens qui n'ont pas d'autre choix que d'accepter des accords qui se font à leur détriment sur la rémunération des heures supplémentaires, sur la facilité du licenciement. J'y ajouterais que quand lui, dans loi Macron, a contribué à la défiscalisation de la distribution d'actions gratuites, sans doute utile pour les start-up, mais injustifié pour les grandes entreprises du CAC 40, et quand de la même main, on refiscalise les heures supplémentaires, voire même on encourage la baisse de la rémunération des heures supplémentaires, d'une main, on baisse la rémunération du travail, et d'autre, on défiscalise les actions gratuites. Eh bien moi, je trouve que là, ça n'est ni juste, ni social, et certainement pas de gauche.
Sylvia nous appelle de la région PACA. Bonjour Sylvia.
Oui, bonjour, bonjour Monsieur Hamon. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur votre intervention sur les dividendes et le travail. Hein. Tout à fait.
Merci.
Alors, ma question, ça concerne les retraites. Bon, moi j'ai 61 ans. Je pourrais partir à 62 ans. Je travaille dans la fonction publique. Je vais sans doute travailler plus longtemps parce qu'il y a un gros choc financier entre la période d'activité et la période de retraite. Quoi qu'on dise sur les retraites des fonctionnaires. Et beaucoup de mes collègues sont dans ce cas-là. Pendant ce temps-là, nos enfants, qui ont 25, 26, 27 ans, ils sont au chômage. Moi, je trouve que c'est pas du tout normal, que c'est aberrant, que c'est une perte, que faire travailler les vieux plus longtemps, alors que les jeunes sont au chômage, c'est aberrant. Je voudrais savoir ce que vous comptez faire dans votre projet, pour faire en sorte que, les jeunes soient plus vite au travail et les vieux plus vite à la retraite. Voilà.
Merci. Merci Sylvia. Benoît Hamon.
Je pense que notre système de protection sociale court à sa perte s'il continue à être financé uniquement par le travail. Le travail se raréfie à raison de la révolution numérique. Il y aura moins de travail. Nous voyons aujourd'hui, Amazon le lance, par exemple, le supermarché sans caissière. vous avez désormais des technologies qui se substituent à ceux qui travaillent. Vous avez dans l'industrie, par exemple sur les, aux États-Unis, mais c'est vrai en Europe, aux États-Unis, en 30 ans, on a produit 50% d'acier en plus avec 4 fois moins de travailleurs. C'est valable dans toute l'Europe et nous avons un système où notre protection sociale est financée par le nombre de salariés, c'est-à-dire par le travail. Si nous ne pensons pas demain, comme le propose un certain nombre d'intellectuels, mais aussi de responsables politiques, une fiscalité qui pèse sur la technologie dès lors qu'elle se substitue à l'homme, eh bien nous ne financerons pas notre protection sociale. Alors sauf à viser le bonheur des robots, le bonheur des algorithmes, moi je dis qu'aujourd'hui, la question urgente qu'il doit être posée, c'est de quelle manière le robot, la machine, quand elle se substitue à l'homme, contribue d'une manière ou d'une autre à assurer le financement, notamment de sa protection sociale. Il y a un très bon rapport au Parlement européen, je veux le signaler, où on a essayé, où ils ont pensé à créer une forme de salaire fictif pour les robots sur lesquels on prélèverait une cotisation sociale, elle, bien réelle, pour financer la protection sociale. Mais ce champ-là, qui est un champ dont on n'a pas parlé d'un mot dans la primaire de droite, et dont je n'entends pas parler chez mes concurrents, c'est aujourd'hui une question qui me paraît centrale.
Il me semble qu'on en a parlé dans la campagne présidentielle de 2012. Vous voyez, ça revient régulièrement.
Dans la primaire de droite, Patrick.
C'est vrai, c'est je n'ai pas été assez attentif. Mais est-ce qu'on a proposé que ces taxes-là soient créées, non?
Oui. Non, pas. Bon, pas ce point-là. Pas ce point-là. Mais généralement, oui.
Un appel d'Armand de l'Essonne. Bonjour, Armand.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour.
Voilà, j'avais un point de vue ou une question pour Benoît Hamon. Je suis un vieux monsieur de 70 ans et je fais partie du peuple de gauche. Je n'ai jamais voté à droite. Et voilà, d'un point de vue, on va dire, purement égoïste, je n'envisage pas dans l'immédiat, je ne me projette pas, pardon, dans la reconstruction de la gauche sur 10 ou 15 ans, et que je vais voter, on va dire, pour éviter un deuxième tour à la présidentielle entre François Fillon et Marine Le Pen. Donc en fonction de l'évolution des rapports de force, ça va être dans l'immédiat mon point de vue, voilà.
Merci, Armand.
Benoît Hamon peut comprendre ça.
Ah, mais je le comprends parfaitement et surtout je le respecte. Je respecte ce point de vue. Je dis simplement, et je le dis à tous ceux qui nous écoutent, il y a d'abord une primaire le 22 et 29 janvier, et je dis notamment aux actifs et aux jeunes actifs que c'est le moment quand même de s'emparer de ce qui va se passer. Parce que ce qui se joue là, c'est la forme que va prendre notre société, les conditions de la redistribution, de la protection, les capacités à prendre des initiatives ou pas pour les 10 ou 20 prochaines années. Ce qui s'est joué en Italie, c'est que ce sont les jeunes qui ont décidé du non à Renzi à 69%. Ce qui s'est joué en Angleterre, c'est que ce sont les jeunes qui ont porté Corbyn à la tête du Labour. Ce qui s'est joué aux États-Unis, c'est que ce sont les jeunes qui ont voté Sanders plutôt que Clinton.
À la primaire de la droite et la primaire de la gauche en 2011, les jeunes n'ont pas beaucoup voté.
Et voilà. Mais moi, je pense que ça bouge. Et je le dis, il est temps de s'emparer des sujets qui nous concernent, qui les concernent. Je parle des jeunes au sens large, parce que maintenant on est jeunes de plus en plus tard, mais que les actifs aujourd'hui se préoccupent des conditions dans lesquelles l'État-providence qu'on leur a laissé, et que beaucoup démantèlent avec méthode, eh bien que sous des formes nouvelles, on reconstruise les grands axes de ce qui sera une solidarité, et je pense notamment au revenu universel d'existence, aux nouvelles protections sociales, à un statut social unique de l'actif, toutes choses que je proposerai lors de ces primaires.